International. Loïc Tassé.
Do you believe that the president bears any responsibility for what we've seen over the past 2 days?
Look, the president's condemned violence in all forms, but certainly feels that everyone has a role to play.
C'était la porte-parole de Donald Trump, Sarah Huckabee, hein, Madame Huckabee Sanders, qui a dit, on lui demande, les journalistes demandent, est-ce que le président a une responsabilité dans cette affaire de colis piégé? Elle répond, le président condamne la violence et tout le monde doit faire sa part. Loïc Tassé, bonjour.
Bonjour Bernard.
Alors, on est rendu à un dixième colis.
Oui, il y a un dixième colis. En fait, c'est Joe Biden qui en aurait reçu deux. Et on sait que Robert De Niro en a reçu aussi. Donc, ça fait 10 colis depuis le début de cette affaire lundi. Mais pour le moment, Trump blâme qui? Les médias. C'est la faute des médias. C'est sa bonne vieille habitude, n'est-ce pas, de blâmer les victimes. Donc, il dit c'est la faute des médias qui constamment ont une vision négative de mon travail, etc. Donc, c'est de leur faute. Il faudrait que les médias cessent d'avoir une vision si négative de mon travail.
C'est quoi la logique, là? J'essaie de comprendre.
T'essaies de trouver de la logique à Donald Trump?
J'essaie de trouver une logique. Une logique.
Ben, c'est tout simplement parce que...
En quoi le fait que De Niro reçoive un colis piégé... Et la faute des médias?
C'est parce qu'il y a une atmosphère toxique en ce moment aux États-Unis.
Okay.
Et on accuse Donald Trump, enfin, des démocrates accusent Donald Trump d'entretenir cette atmosphère toxique parce qu'il fait des attaques
contre
ses adversaires.
Ça, je comprends.
Extrêmement dur.
Oui.
Plus que dur, je dirais qu'elles sont violentes.
Oui, mais c'est, dès sa candidature à la présidence,
c'était
il attaquait
ça.
Les médias dans les grands
Exactement.
Rassemblements populaires. Là. Maintenant, non, mais j'essaie juste de voir. Obama, Clinton, De Niro reçoivent des colis piégés, puis c'est la faute des médias.
Oui.
Fait que les médias auraient suscité la haine de De Niro, ce qui fait qu'il y aurait quelqu'un quelque part qui aurait eu le goût d'y envoyer un colis piégé, c'est ça?
À peu près, ou ils auraient contribué au climat de haine aux États-Unis en
gros,
général.
On va arrêter d'essayer de trouver une logique, je pense, parce
qu'il
n'y en
attends,
a pas.
Je veux te dire, ça marche. Hein? Son taux d'approbation est à, j'ai été voir ça ce matin, 44,8%, c'est le plus haut score depuis le début de son mandat présidentiel.
Il y a 45% des Américains qui trouvent qu'il fait un bon travail.
Oui.
Mais ça arrête pas de bien aller.
Écoute.
Hein?
Les gens sont très contents de son travail. Ce qu'il a fait avec le libre-échange, ça l'a aidé, au Mexique-Canada. Ce qu'il a fait avec le juge Kavanaugh, ça l'a beaucoup aidé.
Ce qu'il fait avec les Honduriens qui s'en viennent.
Avec les Honduriens, tiens, on peut en parler des
Allons-y.
Tu sais, c'est cette colonne de presque 8000 personnes qui s'en viennent. Il n'y a pas que des Honduriens, il y a des Guatémaltèques, il y a des Mexicains là-dedans, il y a d'autres mondes aussi.
Et les autorités américaines disent même, y compris le vice-président, qu'il y aurait des Moyens-Orientaux,
oui, on en a parlé,
des terroristes potentiels.
Ça, on n'a pas été jusque-là. On a dit qu'il y avait des gens du Moyen-Orient qui étaient là. De là à dire que c'est des terroristes,
dans
ça, c'est une
perte de manche. Dans le non-dit.
Mais il leur reste quand même 3000 kilomètres à parcourir à ces gens-là. Au rythme où ils vont, tu sais, ils ont fait 800 kilomètres en 2 semaines. Ben, tu dis que ça va leur prendre normalement un mois à ce rythme-là, à se rendre à la frontière. Mais ça fait rien. Donald Trump vient d'annoncer qu'il envoyait à la frontière, qu'il allait déployer des centaines de soldats. Donc, il envoie les militaires en appui aux gardes-frontières américains.
Pour empêcher la colonne de rentrer... Oui. Aux États-Unis.
Oui, il dit qu'il y a urgence, sauf que, écoute, ils vont peut-être prendre des moyens de transport autres, mais s'ils avancent au même rythme où ils ont avancé pendant les 2 dernières semaines, ça va leur prendre environ 1 mois à se rendre à la frontière.
Alors, évidemment.
Il n'y a pas d'urgence.
Tout ça l'aide électoralement.
Oui, l'urgence, c'est le 6 novembre, c'est les élections de mi-mandat, et c'est ça qu'il est en train de faire. Il s'en sert pour ces élections de mi-mandat, c'est très, très vu. Là, je te mentionne aussi la caravane, enfin, donc, de cette colonne, elle est escortée par des policiers fédéraux du Mexique, et l'ex-ministre des Affaires étrangères a fait une déclaration un peu fracassante en disant, écoutez, le Mexique n'a pas à faire le sale boulot des États-Unis.
Mm-hmm.
Donc,
ils ne vont pas l'arrêter.
Ils vont
c'est
pas
ça que ça
arrêter.
Veut dire. Enfin, c'est un ex-ministre qui dit ça. Il
faudra
voir ce que le gouvernement mexicain, lui, va faire. Le gouvernement sortant qui sort décembre.
Il sort très bientôt. On ne voit pas très bien ce qui va se passer pour le moment. Le gouvernement semble dire qu'il ne peut pas renvoyer tous ces gens chez eux.
Mais ça fait le jeu, évidemment,
de Donald Trump.
Bon, un sujet qui nous sort un petit peu de la géopolitique, mais qui est très important, le prix de l'insuline qui augmente de manière scandaleuse. Pourquoi tu nous parles de ça?
Parce que c'est un marché qui est contrôlé par un petit nombre de compagnies, Eli Lilly, Novo Nordisk et Sanofi.
Sanofi qui est une compagnie européenne.
Oui, ils font 22 milliards de dollars avec ça, avec l'insuline. C'est un très vieux médicament, hein, mais il n'y a aucune alternative. Et donc, il y a des millions de personnes qui dépendent de ça. C'est rendu maintenant à 300 dollars la fiole aux États-Unis. Et pour te donner un comparable, chez Walmart, tu peux en acheter aussi. Elle est de moins bonne qualité. C'est 25 dollars la fiole.
Donc, il y a une méchante différence entre 25 et 300.
Que, c'est que depuis ces dernières années, ces compagnies ont augmenté de manière scandaleuse le prix de l'insuline parce que beaucoup de compagnies pharmaceutiques travaillent non pas avec le prix du marché, l'offre et la demande, mais plutôt avec le prix jusqu'auquel les consommateurs peuvent accepter de payer quelque chose sans qu'il y ait un scandale.
Ça s'appelle un cartel, ça, mon ami?
C'est un cartel et c'est extrêmement... Il y a même des compagnies aux États-Unis qui sont spécialisées dans... la fixation du prix des médicaments. On en a déjà parlé il y a quelques mois de ça. Et ça recommence avec l'insuline. Je le dénonce parce que ça me semble très, très important de dénoncer ce genre de choses, ces compagnies qui font ça. Je trouve ça scandaleux. Et c'est malheureusement une pratique qui risque d'arriver ici dans plusieurs domaines.
Oui, il devrait s'occuper de ça, Donald Trump, plutôt de s'occuper de...
Peut-être des actions justement dans ces compagnies-là.
Hein. Je sais pas. OK, vite, en 30 secondes, le premier ministre japonais qui a fait
important.
Une visite en Chine. Oui, c'est important parce que ce sont les deux superpuissances de l'Asie. Hein?
Absolument. C'est ces deux grandes puissances. La Chine, première puissance économique, le Japon est au quatrième rang économique dans le monde. Alors, Shinzo Abe est arrivé en Chine aujourd'hui. Il y a un rapprochement très important entre les deux pays qui est en train de se faire. Il y a une cinquantaine d'accords qui seraient signés selon des documents officiels dans tous les domaines économiques, l'énergie, la finance, l'automobile. Et on se souviendra qu'en 2014, Shinzo Abe avait été reçu extrêmement froidement par Xi Jinping. Je ne sais pas si tu te souviens,
non,
il avait refusé
pas.
De lui serrer la main, ou il avait à peine serré la main, il n'avait vraiment pas bien.
Alors que là... Scène.
Mais c'est le grand amour et c'est la nouvelle rencontre. Mais le problème, c'est quand est-ce que les États-Unis vont prendre.
Mais j'allais dire, c'est la stratégie des Chinois pour éloigner les Japonais des Américains.
Mais les Américains s'éloignent eux-mêmes des Japonais.
Mais
ils sont
sais.
En renégociation.
Ils s'éloignent de tout le monde.
Ils s'éloignent de tout le monde. Et forcément, ça fait partie de cette vaste recomposition des alliances dans le monde. Le Japon se sent maintenant obligé de se rapprocher de la Chine. La Chine est très heureuse aussi parce qu'elle aussi a besoin du marché japonais, étant donné ce que font les Américains avec leurs sanctions économiques. Et voilà. On se retrouve avec une alliance qui est en train de se dessiner entre le Japon et la Chine. Et tu te souviendras, je t'avais parlé de l'alliance qui se dessinait, la nouvelle alliance qui se dessinait entre le Japon et la Russie. Donc tout ça va dans ce sens-là. Les États-Unis sont en train de s'isoler au plan diplomatique, économique dans le monde. C'est ce qu'on est en train de voir sous nos yeux.
Éventuellement militaire aussi.
Bien
là.
Sûr.
Parce qu'ils ont beaucoup de bâtiments de guerre en Asie.
Pour le moment, on n'est pas encore.
La 7e flotte patrouille le Pacifique.
Pour le moment, l'alliance militaire entre le Japon et les États-Unis demeure inchangée, extrêmement forte.
Ouais.
Les deux armées sont très intégrées. Ça en prendrait beaucoup pour qu'ils s'éloignent.
Mais rappelons-le,
mais ça va dans ce sens-là.
Rappelons-le, la présence des bâtiments de guerre américains dans cette région-là vise à assurer la libre circulation des navires, la libre circulation des marchandises
oui, officiellement.
Dans le détroit
en
de
réalité,
Singapour.
C'est à contrôler la Chine que ça vise.
Oui, ça sert à faire contrepoids, mais ça sert aussi à assurer
la sécurité
le commerce international.
Oui,
le commerce international, absolument. Loïc Tassé, merci.
C'est un plaisir.
Dans un instant, c'est Paul Oud qui s'amène.